un podcast France Culture.
C'est un rêve partagé par de nombreux spécialistes et des amoureux des grands cétacés, celui de pouvoir un jour entrer en communication avec ces animaux fascinants, comprendre leur langage et leur quotidien. Parler baleines, cachalots, dauphins ou encore requins, là réside la quête de nos deux invités qui sont déjà entrés en contact, voire en communion avec ces êtres doués de capacités cognitives et sensorielles exceptionnelles. Aussi, comment ne pas réunir ces deux hommes qui parlent aux cétacés et croiser leurs paroles afin de rendre aux baleines, aux cachalots, aux dauphins et autres requins leur propre voix au-delà de leur chant. Avec nous, Tom Mustil. Bonsoir.
Bonsoir.
Ravi de vous compter parmi nous. Vous êtes biologiste de la conservation, réalisateur de films sur la vie sauvage et auteur du livre « Comment parler baleine », un livre paru aux éditions Albin Michel. Et à vos côtés, l'interprète Michel Zlotowski, que je salue.
Bonsoir.
Avec nous également, François Sarano. Bonsoir.
Quel plaisir, bonsoir.
Merci, plaisir partagé, vous êtes avec nous et vous êtes docteur en océanographie, plongeur professionnel, ancien conseiller scientifique du commandant Cousteau, puis de Jacques Perrin, président fondateur de l'association Longitude 181, La Voix de l'Océan. Et on vous doit ce nouveau livre intitulé « Au nom des requins », un livre paru aux éditions Actes Sud. Et puis dans l'œil du Monde Planète, la journaliste du quotidien Le Monde, Audrey Garic, nous parlera de géo-ingénierie solaire. Un sujet qui, depuis quelques temps, défraie la chronique dans la communauté des scientifiques. Bienvenue à toutes et à tous. C'est le magazine de l'environnement de France Culture, toujours préparé par Anaï Morales, avec l'appui de Vanessa Chang et des équipes de documentation de Radio France. Émission réalisée toujours par Alexandra Malka, avec à la technique ce soir, Grégory Wallon.
C'est certainement l'un des meilleurs sites au monde pour les observer.
On va prendre notre temps et on va essayer de s'approcher au plus près.
Ce matin, au large du Gabon, Damien Zisman accompagne un groupe de touristes parisiens à la recherche de baleines à bosse.
Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, regardez. C'est tellement impressionnant que j'arrive même pas à réaliser que je les vois en fait, qu'elles sont tout autour de nous. C'est absolument incroyable.
C'est majestueux, c'est tellement immense. Et ça se déplace. Je trouve que c'est super gracieux la manière dont ça se déplace.
On n'a pas assez d'une vie pour tout voir finalement.
C'est un camion de 30 tonnes qui sort de l'eau, qui retombe avec un bruit assourdissant. Donc oui, ça donne des frissons à chaque fois. On s'en lasse pas.
Reportage diffusé sur France 2 le 23 octobre 2022. Ces baleines à bosse qui quittent l'Antarctique pour rejoindre les côtes africaines et s'y reproduire entre juin et octobre. L'émerveillement, François Sarano. L'émerveillement, une façon de réconcilier les humains avec la nature.
Mais c'est essentiel. Et ce qui est essentiel là, c'est la rencontre. Les yeux dans les yeux. On ne fait pas l'économie de la rencontre. C'est complètement différent d'être avec, de tisser des liens, que de savoir des choses sur quelqu'un. Ça nous réintègre dans le monde. Et là, je pense que tout d'un coup, ils se sentent un petit peu partie des vivants, pas avec les baleines. Et c'est ça qui est essentiel.
Alors, comment tout a démarré pour l'un et l'autre? Donc, on commence par vous, François Sarano, dans cette relation aux cétacés. Vous étiez tout gamin, alors on voit cette image, cette photo prise par un photographe du Dauphiné libéré. Vous, enfant, avec un énorme requin bleu en plastique dans les bras, c'était en juillet 58. Est-ce que c'est là que tout démarre pour vous, ou alors un peu plus tard avec le commandant Cousteau?
Un peu plus tôt, avec mes parents qui étaient des gens qui m'ont offert la possibilité de satisfaire ma curiosité démesurée des insectes, des vers de terre, des tritons, des têtards. Et c'est merveilleux, la nature est merveilleuse. C'est un émerveillement permanent à partir du moment où on prête attention et que tout d'un coup on a de la considération pour chacune des créatures vivantes. Les créatures vivantes ont tous des talents, des sens incroyables. Nous réalisons très vite que nous sommes des infirmes dans ce monde. Et les baleines communiquent de façon formidable, nous ne les comprenons pas. Et les requins ont des sens qui sont infiniment plus riches que les nôtres. Par conséquent, chaque fois qu'on se penche sur une créature vivante, on plonge dans le merveilleux. C'est Alice au pays des merveilles.
Tom Mustil, de votre côté, vous avez été initié au monde naturel par les documentaires de David Attenborough, je crois, quand vous étiez plus jeune. Ce naturaliste scientifique britannique. Est-ce que c'est vraiment lui qui vous a donné le goût très tôt, ou alors tout s'est passé le 12
septembre 2015?
J'ai toujours aimé la nature, mais j'ai grandi au centre de Londres, dans une grande ville, et mon initiative, c'était vraiment dans mon petit jardin, allongé par terre, à regarder dans l'herbe ce monde infiniment petit qui est tout proche de nous. Mais oui, David Attenborough et Jacques Cousteau, les films de Jacques Cousteau, quand j'ai grandi, m'ont rempli d'émerveillement. Et c'est le travail que j'ai entamé et je le fais maintenant. Je fais des documentaires sur les baleines. Oui, c'était en 2015 que le monde a changé pour moi.
Alors expliquez-nous pourquoi il a changé ce monde.
Ben, je faisais du kayak dans la baie de Monterey avec ma camarade Charlotte. On regardait des baleines à bosse. Il y avait beaucoup de baleines à bosse dans la baie. C'était une grande école de poissons, si vous voulez. C'est une classe de poissons. Et on y est allé à l'aube. Et Charlotte, elle était dans la comptabilité. Elle n'avait jamais vu une baleine avant. Et donc, on tapait sur les kayaks pour écarter un petit peu les baleines. On avait terminé. Et puis, il y a une baleine qui est arrivée, adulte, qui a sauté, qui a fait un breach, ce qu'on appelle. Elle a sauté par-dessus. Elle est retombée sur le kayak. Elle a détruit le kayak. Et sous l'eau, on a essayé de s'en sortir. On a réussi à revenir à la surface. Et tout allait bien. J'étais très surpris parce que la dernière chose que j'avais vue, c'était la baleine au-dessus de moi, comme une montagne qui sortait de l'eau. Et je me suis dit, oh, là, je suis mort. Et Charlotte, elle était beaucoup plus proche de la baleine. Elle s'est sentie qu'elle allait y aller. Et j'étais très étonné. Comment ai-je fait pour survivre? Et il y a un touriste qui a filmé ça sur son téléphone. Et les scientifiques ont regardé les mouvements de la baleine et de la queue. Et elle est allée dans une direction, la baleine, et puis elle s'est tournée en vol. Et c'est comme ça qu'on a survécu. Pas précisément parce que la baleine voulait nous laisser en vie, mais ils ont vu ça. Et peut-être qu'elle s'est sentie inconfortable à atterrir sur des gens. Et puis donc j'ai tiré le fil, et puis voilà, la suite vous la connaissez.
François Sarano, ce comportement-là de cette baleine, est-ce qu'on peut le justifier? C'est vrai qu'elle aurait pu les tuer, hein, tous les deux, et puis finalement, elle se contorsionne, c'est comme pour les éviter. Bon, là, ça peut être une interprétation un petit peu humaine, hein, qu'il ne faut pas donner à ce genre de comportement, mais quand même.
L'expérience que j'ai eue, non pas avec des baleines à bosse, mais avec des cachalots, montre clairement qu'ils sont extrêmement attentifs à nous, les humains. Ils sont très délicats. Ils arrivent même à reculer pour ne pas heurter. Et lorsque il y a le contact, il est d'une douceur extrême. C'est pas un choc, c'est une lente et douce poussée qui réclame une caresse. Les cachalots, hein, encore une fois, je connais moins bien les baleines à bosse, c'est des tonnes de délicatesse et de grâce, et très très attentionnés.
Donc on a souvent en fait ces idées reçues, hein, en regardant ce monde du silence, en regardant ces mammifères marins, on a plutôt de la crainte, surtout vu leur volume et ce qu'ils représentent. Est-ce que vous nous dites, François Sarano, finalement c'est une vue de l'esprit, c'est une peur dont il faut se détacher?
Il n'y a que des individualités, des personnalités chez les humains comme chez les cétacés ou chez les requins. Ça veut dire que en général, ces animaux sont plutôt doux, plutôt attentifs à nous, mais il peut y avoir d'autres individus un petit peu plus explorateurs et parfois mal lunés ce jour-là. Par conséquent, on ne peut pas tirer de généralité. Mais dans l'ensemble, depuis 50 ans que je plonge, que ce soit avec des requins, que ce soit avec des cachalots, des orques, des globicéphales, j'ai toujours vu des animaux qui étaient soit précautionneux, soit, quand ils venaient vers nous, extrêmement délicats et attentifs.
Alors ces comportements, bien sûr, ils nous surprennent, hein, on le comprend. Nous, public non averti. Mais ils racontent aussi de belles histoires, comme pour cet Américain qui pêchait en face de Boston. Écoutez ce reportage diffusé sur France 2 le 12 juin 2021.
Il s'en tire avec des blessures légères à la jambe. Hier, Michael Packard n'a rien vu venir derrière lui. Alors qu'il était en plongée en bouteille, ce pêcheur de homard s'est senti happé violemment. Il a d'abord cru à une attaque de grands requins blancs et pensé sa dernière heure arrivée.
Tout est devenu noir. Puis j'ai senti qu'il n'y avait pas de dents. Je ne ressentais pas de grande douleur. Et j'ai réalisé « Mon Dieu, je suis dans la bouche d'une baleine !» Et je me suis dit « Elle essaie de m'avaler, je vais mourir ici. »
Mais sa bouteille d'air fonctionnait encore et au bout de 30 secondes, la baleine trouva la situation aussi inconfortable que lui.
D'un coup, elle est remontée à la surface. J'ai senti qu'elle secouait sa tête. Elle m'a expulsé en l'air. Je suis retombé dans l'eau, enfin libre.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Avant de donner la parole à Tom Mustil, hein, je vous sens un peu dubitatif, François Sarano.
Ouais,
on voit les images, hein, effectivement, de ce qui s'est passé, mais comment vous l'interprétez-vous?
Elle a expulsé en l'air, je suis un peu surpris au moins de la terminologie, pour avoir été dans des nuages de krill avalés par des baleines bleues. Je sais très bien qu'elles savent exactement quand il y a des gros... des troncs d'arbres ou des plongeurs, elle l'évite. Et c'est vraiment une méprise exceptionnelle qui a eu lieu là et je pense qu'elle n'a pas dû le garder longtemps dans la bouche.
Tom Mustil.
Yes, I mean, I've seen photographs.
Moi, j'ai vu des photos aussi quand des baleines, les baleines à bosse, ont avalé par erreur des pélicans ou autres. Leur langue est très sensible. Elles ouvrent tout de suite la bouche et expulsent. Vous savez, ils ne peuvent pas risquer d'avaler des gros objets parce que leur gosier est très très petit. Et donc, je crois qu'il y a un petit peu d'exagération dans l'histoire.
En tout cas, vous avez tous les deux assisté eu connaissance de récits incroyables qui témoignent d'une intelligence spécifique. Je pense par exemple à ce dauphin qui s'est approché d'un plongeur un peu pour qu'il le libère d'un hameçon planté dans sa nageoire pectorale, hein, Tom Mustil. On peut penser aussi à des femelles orques qui portent le cadavre de leur petit et qui semblent montrer des expressions de deuil. Alors bien sûr, attention à ces comportements. Il ne s'agit pas, comme je le disais, de les assimiler au nôtre, mais il y a quand même ces témoignages-là.
Bien qu'il soit compréhensible qu'il ne faille pas surinterpréter, il y a un risque tout à fait égal de sous-interpréter. Nous n'avons que nos façons humaines de décrire les choses, nos sentiments et nos pensées. Si on les quitte et on dit « Ah non, cet animal cherche simplement à survivre », il ne peut pas montrer un sentiment de deuil. Alors on va rater ce qui se passe. On risque de rater ce qui se passe. Comme François l'a dit, tous sont des individus. Il y a des orques qui ont commencé à porter des saumons sur la tête, comme un chapeau. On ne sait pas pourquoi. Et à Gibraltar, il y a un autre groupe qui attaque le bas des bateaux. On ne sait pas pourquoi. Mais ce sont des comportements localisés pour des sociétés d'animaux différentes. Et on voit souvent dans leur comportement des choses que l'on reconnaît. Que l'on reconnaît en nous. Les dauphins, par exemple, se saoulent intentionnellement. Ils font des rencontres amicales entre animaux. Mais ils font aussi des choses horribles de notre point de vue. Certains dauphins tuent d'autres dauphins. Ils sont exactement comme les êtres humains. Il y a des comportements différents, des centaines de comportements différents, et il est difficile de leur attribuer nos valeurs morales. Et aussi, c'est tout aussi dangereux de les considérer comme une masse d'animaux qui ne réfléchissent pas, qui ne pensent pas, qui ne sentent pas.
François Sarano.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que Tom vient de dire.
Vous devez penser au cachalot Elliot, hein,
oui,
notamment, non?
Oui, au cachalot Elliot, l'histoire.
Vous pouvez raconter, peut-être.
Et je reviens sur l'idée très forte. Toutes les créatures vivantes, et en particulier les grands cétacés, ont une conscience du monde qui est différente de la nôtre. Il ne faut pas les comparer, mais il faut bien se rendre compte que leur sens et leur capacité cognitive leur amènent des informations du monde qu'ils analysent aussi, mais avec leur référentiel. Le nôtre est un référentiel qui est particulier, on a un passé, un présent très long, etc. Eux, c'est plutôt dans l'instant, dans la journée, le bien-être du moment. Cela n'empêche que chez les cétacés, on le voit, ils ont conscience de la mort, ils ont conscience de l'irréversibilité de la mort. Quand une mère dauphin, j'ai vu ça à cachalot, reste avec son petit et le porte, et le pousse, et essaie de le ramener à la vie, tous les animaux n'ont pas cette conscience-là. Mais il faut vraiment réaliser que nous ne sommes pas les seuls à avoir une manière intelligible du monde. Et la deuxième chose, c'est la particularité, la singularité de chaque individu et chez les cétacés, de chaque population, qui ont des cultures propres, avec des transmissions à la fois intergénérationnelles et puis par les jeux entre les individus, les transmissions d'innovation et ces innovations qui prennent racine dans la société, amènent un changement culturel qui isole encore un peu plus cette société d'orques ou de dauphins de celle qui était Saint-Patrick, juste à côté. Nous, on a à l'île Maurice une population de cachalots dont je parle assez souvent, qui est le clan d'Irène Gueule Tordue. Elle a une culture qui se traduit par des expressions vocales propres, qui est complètement différente de celle du clan des Marques Blanches ou du clan des Ailes de Goéland, qui pourtant partagent le même territoire. Et leurs expressions sonores, ça c'est celle du clan d'Irène Gueule Tordue, est différente de celle du clan des Marques Blanches, qui est 3 plus 2 ou 6 réguliers. Pourquoi ? Parce qu'ils vivent ensemble, parce qu'ils transmettent, parce qu'encore une fois, il y a une transmission. Si on parlait des requins, il n'y a pas de transmission intergénérationnelle et ces particularismes qui apparaissent entre les populations sont beaucoup moins fréquents puisqu'il n'y a pas d'échange et il n'y a pas de transmission. Donc la culture, il n'y a pas de culture qui se dissémine.
Donc vous nous amenez tout naturellement, François Sarano, à parler justement de ce langage. Tom Mustil, le chant des baleines, vous avez mené une enquête, vous avez tenté d'en percer les mystères. Alors il y a encore des mystères qui restent bien sûr, mais en quoi est-ce que, selon vous, le chant des baleines est si spécifique ?
Le chant des baleines à bosse a été découvert récemment. Il y a une durée de vie humaine, c'est tout. Hein. C'était un scientifique, Scott McFain, et d'autres ont donné des enregistrements dans les Bahamas, enregistrements faits par les militaires américains. Il y avait des sons bizarres, ils ne savaient pas ce que c'était. Et ils se sont dit, c'est peut-être des sons de baleines. Et quand Roger a fait l'enquête, et quand la baleine plonge pendant 20 minutes, elle fait des vocalises avec des grandes variations, très très belles pour l'oreille humaine. Elle revient à la surface, elle exhale, inhale, et replonge, et recommence à chanter, peut-être toute une journée. Et il s'est allongé, il a écouté, et lui c'était un musicien, et il a commencé à noter des modules qui se répétaient, il a commencé à les analyser comme on analyse de la musique, phrases, refrains, rythmes, les rimes, et il n'y avait aucun autre mot dans notre langue que « chant ». Pour qualifier cela. Et depuis, c'était il y a plus de 50 ans, on a découvert d'autres choses, beaucoup d'autres choses. Comme François l'a dit, ces populations sont souvent séparées, mais leurs chants changent constamment. Mais elles s'écoutent les unes les autres. Et chaque année, il y a une chanson qui change d'océan à océan de ces baleines à bosse. Et au bout de 5 ans, ces chants vont être complètement différents. Parce que les baleines à bosse, c'est la population la plus distribuée à travers le monde et elles chantent dans les océans dans lesquels elles vont. Une des suggestions, c'est que c'est le produit culturel le plus développé dans le monde entier. Et par exemple, c'est comme, par exemple, elles sont au-delà, ce chant a été enregistré et emmené par une sonde interstellaire. Et donc ces chants, maintenant, se trouvent au-delà du cercle de la galaxie. Et moi, j'étais avec les baleines à bosse quand elles chantaient. Et les femelles ne font pas attention à ces chants-là. Il y a d'autres éléments en forme plus courte dans d'autres situations. Donc, c'est un mystère pour nous, un merveilleux mystère. C'est un mystère puissant, parce que quand Roger a publié ces chants, et quand on les a entendus, les gens sont tombés amoureux de ces chants. Et on a vu dans les baleines quelque chose qui pouvait nous relier, nous, à elles. Et c'était un facteur important qui nous a fait changer de l'assassinat industriel des baleines à quelque chose qui permette, une pêche qui permette la reconstitution des populations de baleines. Mais c'est un des grands mystères de la planète, ces chants et ces baleines.
C'était Roger Payne qui avait initié cette méthode avec un disque souple, un flexi, comme on disait à l'époque, qui accompagnait la revue National Geographic en janvier 1979 et vendu à 10,5 millions d'exemplaires. Vous en souvenez, François Sarano ?
Malheureusement pas, et ce collector-là, je souhaiterais vraiment l'avoir.
On imagine.
Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ces chants, il ne faut pas essayer de savoir ce que ça veut dire. C'est un peu comme la musique. C'est très structuré, mais dans le même temps, on ne peut pas traduire une symphonie de Mozart. En revanche, ça communique une émotion formidable qui touche tout le monde. Et on a souvent laissé pour compte cette communication émotionnelle très forte, qui pourtant est essentielle dans l'histoire du monde, et même chez nous, les humains. C'est elle qui structure le monde.
It was the biggest single pressing of any album of all time.
Le disque le plus pressé du monde entier.
Michael Jackson et d'autres personnes, ils ont vendu plus de records,
mais ils n'ont jamais fait une commande aussi grosse de 10 millions d'exemplaires d'un disque flexible.
Could I follow up on something for
Est-ce que je peux continuer sur quelque chose que François a dit?
I think he makes a really important point.
Il a souligné un point extrêmement important. Nous avons l'habitude, quand on regarde le comportement d'autres animaux, de penser quelle est la signification dans l'évolution. Comment est-ce que ça les aide à survivre? Mais réfléchissez un instant. Ces animaux communiquent dans leur société, dans la mer, depuis plus longtemps que nous, nous sommes sur la terre. On ne peut pas créer une cathédrale dans l'océan. Il n'y a pas de main. Si vous êtes dans l'eau, vous ne pouvez pas faire de feu. Mais vous pouvez créer une culture vocale. Les dauphins vont au devant des bateaux, ils émettent des bulles. Et ils peuvent se saouler, comme je l'ai dit précédemment. Et comme on regarde ces choses-là, on se dit, ils s'amusent, ils font des exercices. Mais réfléchissez à ça. Lorsque nous avons terminé la chasse, ou quand on survit, on joue. On fait de la musique et on ne considère pas ces choses-là comme étant communes. On les considère pas comme étant des pratiques de survie, mais comme étant le but de la vie. Peut-être que les baleines et les dauphins sont arrivés à ce point avant nous et on les regarde avec nous, avec cette vision, ils sont des êtres primitifs de survie plutôt qu'une fonction de plaisir ou d'art.
Changer la façon de voir et de faire entendre ces espèces, c'est essentiel. Alors pour les sauver aussi de la prédation humaine, François Sarano, Tom Mustil le rappelait il y a quelques instants en disant que c'était des espèces en danger, massacrées toujours par les Japonais d'ailleurs, pour les baleines. Malgré le moratoire voté par la Commission baleinière internationale en 1982, le Japon en est sorti tout récemment. Et puis les requins chassés pour leurs ailerons, 38 millions de requins massacrés chaque année. Quand on entend effectivement cette vision de Tom Mustil aussi, vos connaissances à tous les deux, on se dit comment est-ce qu'on en arrive à cette prédation.
Oui, aujourd'hui, les requins sont quand même beaucoup, beaucoup plus en danger que les grands cétacés qui bénéficient quand même du moratoire, alors que les requins, non seulement ne bénéficient pas d'un arrêt de la pêche, mais non, ne bénéficient pas non plus d'un capital sympathie chez la plupart d'entre nous. Donc il est urgent de porter leur voix haut parce que eux, contrairement à la plupart des animaux, n'émettent pas de son, il n'y a pas d'expression sonore que l'on connaisse et qui soit mise par les requins. Ils ne peuvent pas émettre de son. Donc, leurs moyens de communiquer sont des moyens qui sont d'ordre vibratoire, visuel, ils ont des attitudes beaucoup plus complexes à saisir pour nous, les humains, et ainsi, difficile à pénétrer leur monde et leur société ou embryon de société. Et donc, on ne fait pas attention à eux. La plupart des créatures vivantes sont insignifiantes pour nous et sont considérées comme rien, soit de la ressource, soit du néant. L'étoile de mer, par exemple, n'a pas de voix. On se fiche de savoir si dans un chalut, il y a des dizaines de tonnes de créatures vivantes qui ne correspondent pas à nos poissons. C'est rien, ça ne compte pas. Les requins, c'est un peu ça, c'est la même chose. C'est-à-dire, ça ne compte pas, la vie du requin ne compte pas. En revanche, quand on commence à plonger avec eux régulièrement et aller connaître, on s'aperçoit que là aussi, chaque requin est une singularité. Il développe sa propre histoire et donc sa propre personnalité. Même si, différemment des cétacés, comme eux, ils ont la vie longue, mais ils n'ont pas une analyse très importante de leurs expériences, nonobstant ça, ils en construisent tout de même des personnalités qui se séparent les unes des autres. Il n'y a pas plus différent d'un requin blanc qu'un autre requin blanc. Et je ne parle pas de l'extraordinaire diversité des espèces qui fait que sous le vocable requin, on ne qualifie rien. C'est comme si on disait mammifère. Il y a les humains, les chauves-souris, les éléphants. Attention, on est très éloigné de ce vivant. Il faut s'en rapprocher et considérer encore une fois que chaque créature vivante ayant son histoire propre, elle est singulière. C'est à ce niveau-là qu'il faut considérer la diversité du vivant.
Et vous savez de quoi vous parlez, hein, François Sarano, parce que vous plongez avec ces requins, vous avez plongé, vous continuez certainement de plonger avec les cachalots, avec ces espèces marines. Et vous pouvez peut-être nous parler de certaines relations, hein, même connexions, communications avec eux. Je pense à Lady Mystery, parlez-nous d'elle quand même, un grand requin. Alors, blanc.
On est pour le tournage du film Océan en 2006. On est au large de la petite île de Guadeloupe dans le Pacifique, une eau bleue, plusieurs centaines de mètres de fond. On est au, 20 mètres de profondeur et tout d'un coup, une énorme femelle requin blanc, sœur des Dents de la Mer de Peter Benchley et Spielberg, 5 mètres 50, 1,5 tonnes, elle arrive face à moi. Ça fait des jours qu'on attend ça. On a eu des face-à-face. Et puis là, elle est calme. Elle est calme. Tout d'un coup, elle ne se détourne pas. Et elle m'accepte pendant 1 minute 17. Je sais, parce que le plan fait 1 minute 17. Il a été filmé magnifiquement par Didier Noirot et David Reichert. À côté d'elle. D'abord les yeux dans les yeux, puis à quelques centimètres. Oui, quelques centimètres nous séparent. C'est plutôt une centimètre de confiance qui nous unit. Et là, cette sérénité, cette plénitude, ce moment de connivence, de confiance de l'un en l'autre, change le monde. On se dit que si même avec le grand requin blanc, on peut trouver la distance juste qui permet d'être en paix ensemble, bien qu'on ne puisse pas se comprendre, le requin il se fiche de moi, et moi je ne le comprendrai jamais, le seul fait de vouloir le comprendre, et ceci m'est dû, fait qu'on peut vivre en paix. Et tout d'un coup, commencer en oubliant notre propre référentiel, d'essayer de rentrer dans le monde de l'autre pour tenter de le rejoindre. C'est ça qui est merveilleux.
En tout cas, les requins, on ne les touche pas. Vous dites qu'il faut une distance. Personne. Enfin, souvent, les dauphins ou des cachalots. Non, on n'a pas ce contact possible.
Non, par respect pour leur liberté sauvage. C'est par respect. Personne n'aimerait que quelqu'un dans la rue, même un copain, tout d'un coup arrive et vous saisisse. Non, il faut les respecter. Et puis, les animaux sauvages, requins, cachalots, dauphins, baleines, ne sont pas nos jouets. Ils ne sont pas là pour satisfaire nos caprices.
Mais eux peuvent venir au contact. Des dauphins viennent au contact.
C'est leur liberté que c'est de ça. Venir nous côtoyer, nous pousser, demander et même tenter de nous apprivoiser, comme Elliot a tenté de le faire, Elliot, le jeune cachalot, en ayant des attitudes caractéristiques de demande de caresse et ces fameuses expressions sonores à 8 clics. Qui disent je voudrais un contact physique. C'est lui qui voulait tisser des liens, c'est lui qui voulait m'apprivoiser. En revanche, les requins, c'est un peu plus sobre. Je ne sais d'ailleurs même pas comment ils me perçoivent. Qu'est-ce que je suis pour le requin ? Une mauvaise odeur, des ondes électromagnétiques. Je ne sais pas comment il me perçoit. Je ne sais pas ce que je suis pour lui. Donc il ne faut pas faire de transfert. En revanche, moi, je vis quelque chose de très fort et je sais que si elle, cette grande femelle, est restée, c'est qu'elle était bien. Un animal sauvage ne reste jamais. S'il n'est pas bien, il fuit, il s'en va, il a l'océan pour lui. Par conséquent, cela montre qu'à ce moment-là, tous deux, nous étions en paix, ensemble.
Et quand il attaque, il y a une raison systématique ?
Pourquoi parle-t-on d'attaque lorsqu'on parle de requins ? J'allais dire, quand on interviewe un cavalier, on ne lui parle pas des accidents. Or, il y a 60 fois plus d'accidents en France métropolitaine avec les chevaux que dans le monde entier avec les requins, toutes espèces confondues, et des centaines de millions de personnes sur leur territoire. C'est extrêmement rare, et il y a deux choses à dire. La première, c'est que c'est dû à des individualités. On ne peut pas dire c'est telle espèce, des individualités particulièrement exploratrices, audacieuses, qui à un moment donné, des circonstances particulières, vont passer à l'acte en se disant « j'ai très faim, je vais oser ». C'est très difficile pour un requin d'oser mordre dans quelque chose qu'il ne connaît pas en aveugle. Donc on ne peut pas dire pourquoi, comment ça se passe. On sait qu'il y a des circonstances favorables, l'eau trouble, de l'eau qui a drainé beaucoup de déchets organiques qui attirent les requins, et à ce moment-là, si en plus on tape sur l'eau et qu'on mime un poisson blessé, eh bien on fait un cocktail qui renforce la probabilité de faire une mauvaise rencontre qui peut-être, si l'individu est particulièrement explorateur, va conduire à un accident. Mais ça prend toujours beaucoup de temps de dire qu'il ne faut pas les considérer.
Tom Mustil, je me tourne vers vous parce que là, François Zarano nous a donné à comprendre que ces espèces marines, ces grands mammifères marins nous regardent, nous auscultent, donc nous scannent. Vous avez été vous-même scanné par une baleine ?
Oui, j'ai une expérience très semblable. Dans les eaux, on les filmait sur l'anatomie des grands cétacés, et je ne voyais pas où était la baleine, mais je pouvais sentir ces sons à travers l'eau, dans mon visage, dans mon corps, dans mon front. Ça m'a pris du temps pour localiser où était la baleine. Elle ne me scannait pas en tant qu'individu, comme le racontait François. Je faisais partie de l'environnement qu'elle scannait. Mais j'ai eu des dauphins qui venaient vers moi, qui me scannaient. J'ai eu un copain caméraman qui filmait un dauphin femelle et sa caméra, c'était une vieille caméra mécanique, ça faisait des clics. Et le dauphin est venu avec son rostre, vous êtes le grand nez des dauphins, avec son nez juste devant sa tête, avec ce son-là. Et c'était comme si quelqu'un avait ouvert une bouteille de boisson gazeuse qui pénétrait sa tête. Et c'était du son qui était utilisé pas seulement pour vocaliser, mais pour sentir le monde. Et le caméraman a senti que cette dauphin, cette femelle dauphin, le scannait et le lisait à l'intérieur de son corps. Et lui, il a passé beaucoup de temps avec elle. Et puis, on a demandé au caméraman qu'est-ce qui s'était passé. Et la personne à qui on a posé la question a découvert qu'elle était enceinte après avoir eu cette rencontre avec ce dauphin, cette femelle dauphin, qui était enceinte elle-même. Et qu'est-ce qu'elle faisait, cette femelle dauphin ? Est-ce qu'elle a vu qu'il y avait un enfant à l'intérieur de son corps, peut-être ? Et comme François a dit, cette nature tactile des baleines, quand on met une caméra sur le dos d'une baleine, eh bien, elles nagent ensemble et elles se touchent avec leurs nageoires et on a l'impression que c'est des animaux énormes, mais ils sont très très sensibles et savent parfaitement où est la limite de leur corps. Et ça va à l'encontre de cette idée qu'on a sur les baleines comme des gros dinosaures un peu pâteaux. Pas du tout. Et j'ai une petite fille qui a une jeune enfant qui a 2 ans et quand je regarde les expériences avec les bébés dans la mer, les bébés baleines, c'est comme un jeu de cache-cache. Eh bien, elles jouent au même jeu. Enfin, excusez-moi, moi je peux en parler pendant des heures de ces jeux de baleines et de baleineaux dans la mer.
François Zarano ?
Celui qui dit qu'une baleine pèse 35 tonnes, c'est qu'il n'a jamais nagé avec une baleine. Parce qu'une baleine, c'est léger comme un papillon qui danse dans le ciel de l'océan. Et puis, surtout, les caresses. C'est des animaux qui se caressent beaucoup, extrêmement tactiles. Et si on change de référentiel et qu'on se dit que l'important pour eux, c'est d'être bien dans l'instant, comment mieux communiquer qu'avec une caresse ? Une caresse, ça donne des choses, ça dit des choses qu'aucun mot, qu'aucun verbe, qu'aucun poème ne dira jamais. Une caresse offerte, une caresse reçue, c'est le sens profond du monde, c'est l'essentiel qui est transmis. Par conséquent, ce moyen de communiquer, il est primordial, il n'est pas primitif, il englobe tout.
My love, your devotion, perfect storms of the same emotion. Infatuation took me by surprise. Now I see nothing when I look into your eyes. Give a little time, space to breathe, little room. Remember me. A little time for us to feed the garden light, baby. shame of me. After I did everything, all that I can. As the years go by, we've grown with the pain. But I just can't keep standing in the rain. Give a little time, space to breathe.
C'était Remember Me de Gabriels et c'est la suite du magazine de l'environnement de France Culture, De Cause à Effet. Immersion totale dans le monde des cétacés et autres animaux marins. Une émission à deux voix, celle de Tom Mustil et de François Sarano qui nous offre une rencontre exceptionnelle entre deux hommes qui parlent aux grands animaux marins. Tom Mustil, biologiste de la conservation, réalisateur de films sur la vie sauvage et auteur du livre Comment parler baleine, paru aux éditions Albin Michel, et puis François Sarano, docteur en océanographie, plongeur professionnel, ancien conseiller scientifique du commandant Cousteau, puis de Jacques Perrin, président fondateur de l'association Longitude 181, La Voix de l'Océan. Et on vous doit ce nouveau livre intitulé Au nom des requins, un livre paru aux éditions Actes Sud. Mais tout de suite, direction la rédaction des pages Planète du journal Le Monde. Notre partenaire média, Audrey Garic, et notre œil du monde Planète. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Aurélie.
Vous vous intéressez cette semaine à la géo-ingénierie solaire, un ensemble très controversé de techniques visant à modifier de manière volontaire le climat de la Terre pour limiter le réchauffement climatique. Une première expérience dans la stratosphère a peut-être eu lieu l'an dernier et elle a quand même suscité l'émoi des scientifiques.
Oui, l'an dernier, un Américain qui s'appelle Luke Eisman a rempli deux ballons avec un peu de dioxyde de soufre et de l'hélium et il les a relâchés dans le ciel depuis sa caravane qui est située au Mexique. Et il espère qu'ils sont parvenus dans la stratosphère, donc à une altitude autour de 20 km, où ils auraient explosé et libéré des particules soufrées. Et si ça a marché, ça aurait permis en fait de réfléchir une partie des rayons du soleil et de provoquer un tout petit refroidissement de la Terre. L'essai, il a été révélé fin décembre et il a été largement condamné par la communauté scientifique parce que le fondateur et PDG de cette start-up qui s'appelle Make Sunsets l'a réalisé d'abord sans consulter aucune autorité locale, ensuite sans supervision scientifique. Il n'a pas mis dans ses ballons aucun équipement qui aurait permis de suivre les ballons et de savoir si l'expérience a marché. Et aussi, il vend des crédits carbone qui seraient liés au refroidissement prétendument observé et obtenu. Et donc, cette expérience, en fait, je t'en rassurais tout le monde, même si elle avait fonctionné, en réalité, elle serait insignifiante pour le climat parce qu'il y a très très peu de dioxyde de soufre dans les ballons. Mais nombre de scientifiques craignent qu'elle ne crée un dangereux précédent et que des pays ou des individus beaucoup plus riches et puissants, ne tentent aussi à leur tour de manipuler le climat, parce que alors que ces technologies ne sont pas matures ni encadrées. C'est un vieux rêve techno-scientifique, techno-solutionniste, qui reconnaît un regain d'intérêt désormais depuis quelques années, à mesure que la crise climatique s'aggrave. Et aujourd'hui, en fait, ça paraît de moins en moins de la science-fiction.
Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, qu'est-ce que la géo-ingénierie solaire précisément ?
Alors, c'est toutes les techniques qui sont envisagées pour refroidir la Terre en réfléchissant une partie des rayons du Soleil. Donc, la technologie qui fait le plus l'objet de recherche, c'est celle qu'a essayé de faire Make Sunsets, c'est l'injection d'aérosols dans la stratosphère par des avions spéciaux. Là, on en injecterait des millions de tonnes chaque année par des milliers d'avions. Après, il y a d'autres scientifiques qui travaillent sur l'éclaircissement des nuages marins, qui consiste à augmenter leur réflectivité en pulvérisant en continu de l'eau de mer dans l'air. Et après, le domaine regorge d'idées qui sont totalement spéculatives, si ce n'est farfelues, comme le fait d'installer des miroirs géants dans l'espace, voire de tirer des panaches de poussière lunaire dans l'espace pour détourner les rayons du soleil.
Et alors, quels seraient les effets de la géo-ingénierie solaire ?
Alors avec l'injection d'aérosols dans la stratosphère, ça on sait que ça pourrait réduire la température mondiale par exemple d'un degré, parce que là on reproduit en fait ce que font les éruptions volcaniques qui émettent aussi beaucoup de dioxyde de soufre. Et par exemple après l'éruption du Pinatubo en 91, il y a eu un refroidissement de la Terre d'un demi-degré pendant 2 ans. Ça permettrait aussi ce refroidissement de réduire la fonte des glaces, l'élévation du niveau de la mer, la fréquence et l'intensité des événements extrêmes. Mais après, évidemment, il y a énormément de risques et beaucoup qui sont inconnus. déjà, c'est une technologie qui répond pas à l'acidification des océans, parce qu'en fait, elle ne réduit pas les concentrations de CO2 dans l'atmosphère, elle réduit juste la chaleur, mais elle s'attaque donc à une partie des symptômes de la crise climatique, mais pas à ses causes. Mmh. Et ensuite, elle pourrait aussi réduire les précipitations dans certaines zones, donc augmenter certaines, les sécheresses dans certaines régions aussi, augmenter les pluies acides. On sait aussi que le ciel sera moins bleu si on injecte des aérosols dans la stratosphère, que la couche d'ozone aussi se détériorerait nettement. Et aussi, le gros enjeu, c'est qu'il faudrait le faire en continu, sans quoi on risquerait d'avoir en fait un choc terminal avec d'un coup, si on arrêtait d'injecter des aérosols dans la stratosphère, tout le réchauffement qui est masqué reviendrait d'un coup. Et là, donc, ce serait... impossible ou très difficile de s'y adapter. Et après, il y a tout au-delà du climat, il y a tous les risques sécuritaires, géopolitiques, par exemple des pays qui seraient touchés par une sécheresse causée par l'injection d'aérosols par d'autres pays, ben, pourraient vouloir rentrer en guerre. Et le dernier gros risque, c'est le fait qu'elle ne détourne de la véritable urgence qui est la réduction d'émissions de gaz à effet de serre qui doit être faite de manière immédiate et très forte. Donc pour les uns, c'est une folie d'apprenti sorcier, un écran de fumée, et pour les autres, c'est une solution de dernier recours qu'il faut envisager.
François Sarano, je vous voyais lever les yeux au ciel, effectivement.
Ça fait des siècles qu'on dit la technique résoudra nos problèmes, mais elle ne le résout jamais parce qu'elle est tellement complexe qu'elle a toujours des effets pervers qu'on doit résoudre avec une technologie plus complexe et des effets pervers encore plus difficiles à contrôler. Et vous allez me dire, bah, c'est qu'une augmentation. Non, ça se fait aux dépens des ressources de la planète. Et puis surtout, comme c'est de plus en plus coûteux, de plus en plus onéreux, c'est réservé à une frange très étroite de la population mondiale. On va sauver les gens en allant sur d'autres planètes. En deux mots, restons raisonnables, retrouvons du bien-être dans la relation, arrêtons de consommer de façon maladive et débridée, et tous ces idées farfelues, eh bien on les laissera pour de la science-fiction.
Tom Mustil ?
Bah, quelle est la motivation ? C'est dans l'idée que on vend des crédits carbone.
C'est un
signal d'alarme parce que ça va main dans la main avec des gens qui ne veulent pas changer leur style de vie, qui cherchent quelque chose qui puisse être très rapide pour continuer à vivre de la façon dont ils vivent actuellement. L'histoire de nos technologies, c'est celle des conséquences inattendues. Quand on essaie de contrôler quelque chose, on oublie que tous les systèmes sont liés d'une manière ou d'une autre, d'une façon qu'on ne comprend pas encore. Et pour moi, revenir à l'océan, ce n'est pas terrible quand il y a une éruption volcanique. Mais c'est souvent associé avec des épisodes d'extinction de masse, avec des famines, avec des pluies acides. Eh bien, si on envoie du dioxyde de soufre, eh bien, on va réduire évidemment le rayonnement solaire. Mais toute notre chaîne alimentaire vient du rayonnement solaire. Est-ce qu'on veut réduire notre alimentation ? Est-ce qu'on peut la changer complètement ? Eh bien, à ce moment-là, s'il y a un problème, un changement climatique mince, il y aura moins de krill dans les océans et toute une population marine va mourir. Il y aura moins de ressources halieutiques pour nous, pour qu'on puisse s'en nourrir. Ben, ce serait terrible.
Audrey Garrick.
Il y a énormément d'effets en fait inconnus qui pourraient survenir avec ces technologies-là, mais ce qui est inquiétant, c'est qu'elles sont de plus en plus étudiées et maintenant ça commence à devenir quelque chose de possible en fait, ça se légitime de plus en plus alors qu'avant on pensait que c'était complètement fou et désormais il y a des gros programmes de recherche sur le sujet. Les États-Unis s'apprêtent à lancer un nouveau programme de recherche qui pourrait être de 100 ou 200 millions de dollars sur 5 ans et en fait on se dit c'est du dernier recours, mais plus on avance et plus il y a un risque en fait qu'on utilise vraiment ces technologies-là.
Et donc avec des gros budgets à la clé.
Là, je suis désolé, mais je pense qu'on fait fausse route. Illich disait ça très bien dans les années 60-70.
Ivan Illich. Hein, oui.
Il mettait en avant cette course effrénée à la technologie qui nous détourne de ce qui est important dans la vie et qui est le bien-être, l'amour, ce qui nous fait vivre. Tout le reste, c'est de la côté. Remettons le vivant au cœur de toutes les politiques publiques, même quand on essaie de lutter contre le changement climatique. Ne devenons pas fous, ne rasons pas une forêt pour mettre des panneaux solaires. C'est la forêt qu'il faut préserver, c'est le vivant qu'il faut préserver.
Merci en tout cas de vos réactions à la chronique d'Audrey Garrick. Merci Audrey.
Merci Aurélie.
Et puis bien sûr, pour les auditeurs qui souhaiteraient retrouver votre article sur le sujet, direction notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet, où vous trouverez aussi le lien du journal lemonde.fr.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Elle a fait une escale involontaire en Bretagne. 26 heures de cache-cache dans l'estuaire de la Rance, coincée après le barrage de l'usine marémotrice. Une baleine à bosse franchement perdue, un jeune adulte de 7 à 10 mètres, c'est plus gros qu'une sardine dans le port de Marseille, mais moins qu'une baleine en bonne santé.
L'animal est véloce, il a parcouru de nombreux kilomètres hier, mais on est quand même sur un animal qui n'est pas non plus en super forme, vraisemblablement parce qu'il n'a pas un embonpoint comme il pourrait avoir à cette période de l'année.
Ce matin, en se réveillant, on s'est dit non mais c'est trop bête d'aller à l'école alors qu'il y a une baleine dans le barrage de la Rance. Donc on s'est réveillé beaucoup plus facilement d'ailleurs que pour aller à l'école.
C'était impressionnant vu que je l'avais jamais vu de ma vie. J'aimerais bien en revoir une, surtout qu'il n'y en a pas beaucoup à Saint-Malo, on n'en a jamais vu beaucoup à Saint-Malo.
Dès l'apparition du cétacé, les vannes de l'usine marée motrice ont été ouvertes pour lui permettre de sortir. La production d'électricité a été stoppée.
La priorité, en lien avec les acteurs mobilisés, c'est de permettre à la baleine de rejoindre le large.
Finalement, elle est repartie avec la marée et devrait rouler sa bosse vers les Baléares. Il ne nous reste que quelques photos d'elle.
Reportage diffusé sur France 3 le 10 février 2023. François Sarano, comment explique-t-on ce genre de comportement? S'égarer, s'échouer, même souvent en groupe. On pense par exemple à ces centaines de dauphins échoués sur la côte atlantique en France depuis décembre, par exemple.
Oui, là il y a deux causes différentes.
Là il y a autre chose, hein, bien sûr.
Les dauphins, clairement, ils sont pêchés et ils sont morts lorsqu'ils s'échouent. Mmh. C'est une cause particulière. C'est notre surconsommation de poissons et les dégâts que ça provoque dans les écosystèmes indirectement, parce qu'on demande toujours aux pêcheurs de nous ramener plus de poissons moins cher. Et eux, ils sont dans une contrainte économique. Ça leur fait pas plaisir de tuer des dauphins, il faut pas croire. Mais bon, certains sont moins soucieux que d'autres. Mais il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que en ce qui concerne les dauphins, c'est nous, consommateurs, qui sommes les responsables. Ne reportons pas notre faute sur celle de ceux à qui nous demandons d'aller pêcher le poisson. En revanche, cette baleine à bosse oui. ou d'autres animaux qui s'égarent font partie des explorateurs. Dans toutes les populations animales, il y a des animaux explorateurs. Elliot, le cachalot, est un explorateur. Dusty, c'est une femelle dauphin exploratrice qui vont toujours aux frontières de leur territoire, des endroits où leurs congénères sont. Et lorsqu'ils dépassent ces frontières, et ben parfois ils peuvent s'égarer. Et comme les animaux ne reviennent pas en arrière, lorsqu'ils s'égarent, eh bien ils essayent toujours de trouver la solution vers l'avant. Et que par conséquent, ils continuent, pensant trouver une solution. Et donc, ils arrivent à s'égarer très très loin. On l'a vu, le beluga qui est arrivé jusque dans la Seine, et ben à partir du sud du Groenland, était déjà complètement perdu. Mais ils s'enfoncent, et donc on les retrouve chez nous aujourd'hui. Et l'autre chose, il faut savoir, et je réponds à cette petite fille qui dit « Ah, c'est tellement rare ici !» Mais autrefois, avant la grande chasse à la baleine, avant les grands massacres, il n'y avait pas de baleine à bosse, mais il y avait d'autres baleines. Les baleines étaient très abondantes. Elles peuplaient les océans. Et peut-être qu'aujourd'hui, grâce au moratoire qui fait que les baleines, en général, ne sont plus chassées, les populations retrouvent des niveaux qui, à la fois, les mettent hors de danger et leur permettent de reconquérir leur territoire initial. On voit aujourd'hui à La Réunion des gens qui disent « Oh, les baleines sont... elles arrivent !» Mais non, elles étaient toujours là, mais il n'y en avait plus pour occuper le terrain parce que la chasse avait réduit les populations. Maintenant que les populations réaugmentent, on les revoit revenir.
Tom Mustil, une réaction peut-être sur ces baleines. Alors, on pense aussi dans le livre que vous avez écrit, hein, qui s'intitule « Comment parler baleines », publié chez Albin Michel. Vous parlez aussi, alors, de cette envie de percer le mystère du langage, de la communication, mais vous parlez aussi quand même de l'intelligence artificielle qui peut peut-être nous apporter des solutions. Alors là, il ne s'agit pas d'être dans la technoscience pour le pire, mais ce serait pour le meilleur et avec le respect justement de ces animaux.
Je voudrais dire une chose sur les dauphins aussi. On est à Paris ici, et en chemin vers le studio, je regardais la Tour Eiffel, ces énormes bateaux qui tuent les dauphins, traînent des filets qui pourraient englober la Tour Eiffel. C'est pas des petits bateaux de pêche, c'est de la pêche industrielle à une échelle incroyable. Et rien ne peut y échapper. Bah, pour le langage, on ne sait pas si ces animaux ont un langage. On voit qu'ils ont une communication extrêmement complexe, interanimale. Il est très difficile pour nous de trouver une façon d'entrer dans ce langage. Parce que nous sommes des animaux terrestres avec une conscience terrestre. Trouver les chemins de la communication, on en parlait, l'ingénierie solaire avec ses applications dangereuses. Mais le commandant Cousteau, qui était à la pointe d'une technologie qui tentait de dépasser les limites humaines pour enregistrer les comportements des animaux sous-marins et de nous relier à eux. Moi, ce que j'ai découvert au cours des dernières années, quand je suis devenu scientifique, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour découvrir des modes dans les détails des nageoires qui sont différents entre chaque animal. Et en quelques dixièmes de seconde, par exemple, l'intelligence artificielle peut déterminer quel animal vient de quel endroit de l'océan. Et ce que l'on découvre, c'est que cet exemple d'explorateurs de baleines à bosse, ça arrive dans le monde entier. Un endroit, par exemple, en Géorgie, certaines des baleines reviennent sur la côte est des États-Unis. Les baleines reviennent. On le voit parce que des êtres humains qui s'intéressent prennent des photos. Il y a une application de la technologie qui trouve des modes dans ces photographies. Nous font reconnaître que ce sont des individus que l'on peut reconnaître. Et on voit exactement que ce sont des animaux qui reviennent par donc cette curiosité, et deux, on a cette nouvelle technologie qui permet d'identifier chacun de ces animaux.
Alors ces technologies aussi vous permettent, Tom Mustil, peut-être de savoir ce qu'est devenu la baleine à bosse qui vous a survolé en 2015, parce que je crois qu'il y a une banque de données qui existe avec des photos envoyées par des observateurs hein, comme ceux de Monterey. Votre baleine, elle est référencée sous un matricule CRC-12564. Est-ce que vous savez où elle est en ce moment ?
This is why I became so fascinated in this.
C'est ça qui m'a tellement fasciné dans cette histoire.
Because not only did somebody film,
non seulement quelqu'un a filmé, a photographié la baleine, chose qui ne serait pas produite il y a quelques années, mais là tout le monde a un appareil enregistreur miniature qui nous permet à tout un chacun de contribuer à la science. Mais Happy Whale, la baleine heureuse, qui est une société d'amis de baleines, ont utilisé de l'intelligence artificielle pour identifier ma baleine. Vous l'avez nommée. Mais elle a évidemment son propre nom, qui n'est pas celui que vous avez donné. Je sais où elle est née, je sais qui était sa mère, quel est son âge, et je la suis depuis. Et il y a quelques semaines, un scientifique au Mexique m'a envoyé un courriel qui essayait un nouveau système d'identification des baleines. Il y avait trois baleines à côté de son bateau, et l'une d'entre elles, c'est la baleine qui a sauté sur moi. Et il a mis un petit enregistreur satellitaire qu'il a accroché à la baleine, et au cours des deux dernières semaines, eh ben moi, je suis ma baleine, tout autour du Mexique, et moi, je la trace maintenant, elle est en Californie. Moi, je suis lié à cette baleine. Et de plus, on sentira ces liens, plus on voudra sauver ces animaux. On voudra faire attention à eux. Et maintenant, cette société Happy Whale a identifié toute baleine à bosse de l'Atlantique Nord. Donc, ma petite histoire est liée à ce changement où on a plus à l'esprit ce que sont et qui sont ces animaux. Et je crois qu'une des applications les plus extraordinaires, c'est de découvrir des modes dans cette façon de vivre des baleines.
Et vous êtes capable de reconnaître son chant partout, entre mille ?
Absolutely.
Tout à fait.
I don't want to talk on top of the whales because they're...
Je voudrais pas mettre ma voix sur le son des baleines parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
Ne pas mettre votre voix sur celle des baleines, mais on a bien compris que vous étiez lié à elle, Tom Mustil. François Saranou, est-ce que vous êtes lié, vous, fortement, à l'un de ces animaux ? Un cachalot,
oui.
La Lady Mystery, par exemple, alors, qui, elle, est un grand requin.
Lady Mystery, je suis lié parce qu'elle représente l'altérité absolue qui nous fait peur parce qu'on la méconnaît. Et en ce sens, cette rencontre, et je l'ai deux fois. Une fois en 2006, une fois en 2013, c'est une coïncidence formidable. Hein. Elle n'était pas venue pour me retrouver, mais la coïncidence a fait que nous avons à nouveau nagé ensemble côte à côte. C'était des moments bouleversants. Mais c'est vrai qu'on tisse peu de liens avec les requins. Ils nous acceptent, c'est déjà formidable. On peut rentrer dans leur bulle d'intimité, c'est déjà formidable. Tandis qu'avec les cétacés, dauphins ou cachalots, c'est autre chose. C'est eux qui décident de tisser des liens. C'est eux qui viennent vous apprivoiser. Et cette offrande de « je voudrais des caresses, j'essaye de toucher ton monde » est complètement bouleversante. Parce qu'on découvre tout d'un coup qu'on n'est pas les seuls au monde à vouloir étudier les autres, à s'intéresser à l'altérité, à vouloir apprivoiser d'autres espèces si différentes. C'est ça qui est bouleversant. Et effectivement, j'ai un peu d'impatience là, en ce moment, j'ai envie de retourner à l'île Maurice, on y va juste en avril pour voir si Elliot est toujours là. Il va avoir 12 ans cette année, normalement c'est un jeune mâle, il va quitter le clan maternel, et peut-être n'y reviendra-t-il jamais à l'île Maurice et on ne le retrouvera jamais.
Et avec
c'est
Elliot...
beaucoup plus difficile à retrouver des cachalots que les baleines à bosse.
Et vous avez plongé avec lui, vous avez été au contact, alors toujours avec une
c'est
distance
lui, c'est
ou...
lui qui...
Enfin, lui est venu
c'est
au contact.
C'est pas moi qui ai plongé
oui,
avec lui. C'est lui qui décide. Oui, en 2013 déjà, il était tout petit, il est venu me voir et il m'a poussé comme ça du museau, c'est étonnant. Et puis il l'a fait, oui, plusieurs fois, dont là, une fois extraordinaire, 10 minutes à danser, à s'offrir comme ça en se mettant sur le dos, à offrir son ventre et en... Ça, cette coda, cette expression sonore, on en a analysé 1700, signifie « je veux un contact physique, je veux des caresses ». Je souhaite t'apprivoiser dans son langage propre. Et c'est jamais utilisé avec des plongeurs, c'est toujours entre eux qu'ils utilisent ça. Et tout à l'heure, on parlait du ressenti que Tom avait lorsqu'il y avait des buzz et des crics. Moi, et ils le font souvent entre eux, inutile de dire qu'ils ne se scannent pas entre eux. En revanche... Je pense que ces buzz et ces crics, cette série vibratoire est caressante et que c'est quelque chose qui est doux et qui doit stimuler autrement que simplement par le son, mais bien par cette vibration caressante.
Comment est-ce que vous voyez leur avenir? On sait qu'ils sont atteints aussi par la prédation, on en a parlé, mais la pollution plastique, les métaux lourds, les perturbateurs endocriniens, victimes du trafic maritime aussi, les nuisances sonores qui les perturbent bien évidemment. Comment est-ce que vous voyez cet avenir en sachant qu'on a quand même aussi parlé du moratoire pour les baleines qui est une bonne solution? Qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait pour le reste de ces animaux marins?
Que nous redevenions sapiens. C'est-à-dire que nous sommes les seuls êtres vivants qui n'avons pas les talents des autres, hein, mais nous avons un talent particulier, c'est de savoir tout ça. Et d'avoir la conscience de tout ça, la conscience de l'irréversibilité de la mort. Ça nous donne la responsabilité d'agir en toute liberté face aux autres, ou de les écrabouiller, ou au contraire, de les respecter. Et si nous revendiquons le statut de sapiens, alors soyons à la hauteur. Et il se traduit par le respect des autres. En gros, notre humanisme se construit dans le respect de toutes les créatures vivantes, baleines, requins, étoiles de mer. C'est là-dedans. Réfléchissons à ça. Notre différence, elle est dans la liberté de respecter les autres.
Tom Mustil, ce qui est intéressant, c'est que tous les deux, donc, vous nous offrez vos livres et vos derniers propos portent sur ce que vous ne voulez pas laisser à vos enfants ou petits-enfants, un monde vidé de son vivant. Est-ce que vous éprouvez une certaine responsabilité?
Yes.
Oui.
And I also feel reassured by that.
Et je suis rassuré aussi par
I
cela.
Think at the moment we
je crois que pour
fixation,
le moment, nous avons une petite fixation,
fixation
nord-américaine sur l'individualisme.
As much out
ah
of
oui,
life as you can.
Il faut en tirer de la vie autant que possible. Il faut, la vie doit être étendue. Il faut tirer des choses de la vie. Ça, ce sont des choses qui me sont étrangères. Moi, je trouve l'idée réassurante en tant que biologiste que je retournerai à l'écosystème. Je serai réincarné sous d'autres formes. Je veux qu'il y ait autant de formes qui fleurissent que possible, parce que ça fait partie de moi. Et c'est là que je viens. Je sens que le monde vivant est une extension de moi-même. Et bien sûr, il est naturel pour moi de vouloir continuer. Je ne veux pas être diminué au coût pour des idées court-termistes.
Merci à tous les deux. Tom Mustil, je rappelle le titre de votre livre « Comment parler baleine », un livre paru aux éditions Albin Michel. Et merci à Michel Sotowski pour avoir parlé, non pas baleine, mais Mustil. François Sarano, l'association Longitude 181, La Voix de l'Océan, peut recommander justement d'aller vers le lien. Et puis à conseiller vos livres « Le Retour de Moby Dick »,« Réconcilier l'homme avec la vie sauvage » et le dernier paru aux éditions Actes Sud. Comme les précédents, il s'appelle donc « Au nom des requins ». Je remercie bien sûr Audrey Garic du quotidien Le Monde et puis pour les auditeurs, donc toutes les références, la bibliographie, les liens sont à retrouver sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet, téléchargement, réécoute à votre disposition et continuons de parler à cette vie sauvage qui, avec nous, constitue le vivant de la planète. Thank you.
Collection Mécanique du vivant, saison 2, le requin. L'amoureux de la nature, Marc Mortelmans, vous raconte la place fondamentale des requins dans notre écosystème, de la surpêche qui menace leur fonction vitale pour les océans, au mystère de leur reproduction.
Comment et pourquoi des animaux si résilients, si costauds, sont si désavantagés aujourd'hui ?
Mécanique du vivant, saison 2, le requin. Un podcast de Marc Mortelmans, réalisé par Charlotte Roux sur franceculture.fr et l'appli Radio France, avec le Zooparc de Beauval et l'association Beauval Nature.